On va refaire un point sur les incendies. On était déjà en train de regarder la carte de ces feux. C'est essentiellement les Pyrénées-Orientales qui concentrent toute l'attention. On a des images qui viennent de Isle-sur-Tête, vous voyez, dans les Pyrénées-Orientales, avec des feux. Alors, des feux qui ne sont pas encore maîtrisés. C'est Élise Philips qui est là-bas pour BFM TV. Élise, les pompiers sont à pied d'œuvre. Il faut agir vite.
Exactement, faut agir très vite ici dans l'Hérault où le feu qui s'est déclenché il y a quelques heures a parcouru plus de 200 hectares et les pompiers, il y a beaucoup de moyens terrestres en ce moment qui travaillent encore. On voit ces pompiers sur ces images de Jérémy Paoloni qui sont en train de noyer les points chauds parce que ici toute la végétation a été traversée par les flammes et il reste encore parfois des braises sous la végétation, sous la terre et donc il faut noyer avec énormément d'eau pour éviter qu'éventuellement des braises soient attisées par le vent et reprennent et brûlent une plus grande partie de la végétation. Vous le voyez sur ces images de Jérémy, à quel point cet endroit, cette forêt a été complètement brûlée. Ça, ce sont pour les moyens terrestres. Il y a aussi des moyens aériens. Toute la journée, on a vu des canadairs, des avions faire des rondes dans le ciel, larguer des milliers de litres d'eau sur des points chauds qui se réactivaient à certains moments. Ça a été la priorité de la journée pour les pompiers. Ces pompiers qui vont encore rester mobilisés ici dans l'Hérault parce que ce feu, même si il s'est calmé, on va dire, il n'est pas encore fixé. Ça veut dire que la situation n'est pas du tout terminée. Et puis, les pompiers s'inquiètent, encore une fois, de cette saison des incendies extrêmement précoce. Tout à l'heure, un pompier nous disait que ce qu'on observe en ce moment, c'est plutôt une situation qu'on a habituellement au mois d'août. Donc, il y a à peu près un mois d'avance sur la saison des feux. On le voit ici dans l'Hérault avec ce feu qui a été extrêmement actif, assez puissant et qui a eu le temps en quelques heures de brûler beaucoup de végétation.
Élise Philips avec Jérémy Paoloni dans l'Hérault, donc les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, on voit bien où sont les foyers intenses.
Pour parler celui des Pyrénées-Orientales, il faut préciser que le feu n'est toujours pas fixé, mais il a ralenti selon les autorités qui sont sur place, avec toujours ce problème, c'est le vent, bien entendu, qui attise
Les flammes. Conditions météo qui sont très très défavorables, le vent, mais pas que, une végétation qui a poussé cet hiver et ce printemps, qui a séché depuis en raison de la canicule, donc tout ça, ça donne du combustible à l'incendie, un relief également qui favorise également la propagation du feu, un taux d'humidité très faible, des températures élevées, enfin voilà, on a vraiment le cocktail explosif pour ces feux. Donc oui, le feu ralentit, alors honnêtement, dans le vocabulaire des sapeurs-pompiers, ça ne veut pas dire grand-chose. Un feu qui ralentit, en tout cas, il faut toujours faire preuve d'humilité, parce qu'un feu qui ralentit, soit on aura un petit peu de chance et on pourra le fixer. Enfin, les collègues pourront le fixer. Et là, ils ont une petite fenêtre de tir. Hein, le vent a baissé un petit peu.
Ah justement, ouais, on va regarder la carte météo.
L'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à le fixer. Et une fois qu'il sera fixé, c'est de tenir ce feu fixé pour qu'il devienne maîtrisé. Mais vraiment, il faut être
vigilant, bien sûr.
Il faut être très
prudent. Quelle est la carte météo, alors, de la situation? Anthony. Alors, Pyrénées-Orientales, Hérault, là où sont les...
Sur la situation du vent, Ludovic l'a dit, ça a baissé. Justement, ce vent va faiblir aussi demain. Tramontane et Mistral faiblissent, ce qui permet aux marins, vous savez, c'est un vent qui vient de la mer, d'entrer un peu plus à l'intérieur des terres et d'amener de l'humidité. Le marin, c'est 70-80% d'humidité. Donc vraiment, demain, les conditions seront optimales pour les pompiers pour, comme le dirait Ludovic, matraquer, tabasser effectivement le feu. En revanche, à partir de mercredi, la tramontane revient en force avec des rafales à 40-50 km par heure. Tout comme de l'autre côté, au niveau de la vallée du Rhône, le Mistral, où là aussi, on attend de puissantes rafales jusqu'à 60 km par heure. En revanche, ce qui ne change pas, ce sont les températures.
Alors justement,
on restera sur un plateau à 40.
La troisième canicule s'installe. Demain à midi, ce sont 61 départements qui seront en vigilance orange canicule. Ça va toucher beaucoup de régions, notamment, on le voit sur cette carte, l'Île-de-France, la Bourgogne, les Pays de la Loire, la Bretagne, sauf les Côtes d'Armor, petite exception, avec des températures qui pourraient grimper jusqu'à 41 degrés.
Exactement. En fait, d'ailleurs, la canicule ne s'est quasiment pas terminé dans le sud, puisque dans le sud, on est directement passé de la deuxième à la troisième sans pause.
Il n'y a pas eu beaucoup de différence.
Il n'y a quasiment pas eu de différence. Ailleurs, effectivement, on a pu un petit peu souffler. Malheureusement, ça reprend. Vous l'avez dit, 61 départements en vigilance. Donc demain, c'est quasiment les trois quarts du territoire. Si vous habitez dans un département en orange, si vous êtes dans le sud-ouest et sur le pourtour méditerranéen, c'est chez vous que les températures seront les plus élevées, jusqu'à 40 degrés à l'ombre, évidemment. En revanche, si vous êtes sur les régions plus centrales, comme par exemple l'Île-de-France, le Centre-Val-de-Loire ou les Pays de Loire, Là, demain après-midi, eh bien, on s'échelonnera au-dessus de 35 degrés à l'ombre minimum et on pourrait aller jusqu'à 38, 39 degrés.
On a battu des records mensuels aujourd'hui?
On a battu plus d'une dizaine de records qui se sont localisés effectivement dans l'Aude, sur le pourtour méditerranéen, puisque l'on est monté jusqu'à 42, 43 degrés effectivement à l'ombre. Vous les découvrez d'ailleurs à droite de l'écran.
Argelier dans l'Aude, 42,7. Voilà. Soumont dans l'Hérault, 41,9.
Ce sont effectivement des records mensuels qui ont été battus, donc ils n'avaient jamais fait aussi chaud dans ce département de l'Aude pour un mois de juin.
Lieutenant-colonel Haraud, quelle est la stratégie d'intervention justement des pompiers en ce qui concerne les feux?
Alors, on est dans une zone, les Pyrénées-Orientales, où effectivement la végétation est extrêmement sèche depuis des semaines. Et j'irai même au-delà, on a des zones, notamment au pied des Pyrénées, où 70% de la végétation est morte. Des saisons qui se sont enchaînées, où on est à des arbres morts, des zones entièrement de végétation morte, qui brûleront inéluctablement. Ce sera cette saison, ce sera la prochaine, mais on sait que le combustible est là. Pour que le feu arrive, il faut qu'il y ait une énergie d'activation, c'est ces départs de feu, malheureusement trop souvent d'origine humaine, par négligence ou par malveillance. Et puis le vent qui se lève, et on a vu ces derniers jours qu'il s'est levé, qu'il va s'intensifier à nouveau demain.
Ce que disent les pompiers souvent, c'est quand ça part, il nous faut juste un verre d'eau. Quand ça commence, après, il nous faut un seau d'eau. Donc là, c'est la stratégie du verre d'eau, c'est d'éteindre au plus vite la stratégie des pompiers, c'est
Alors,
ça ?
La stratégie elle-même, ce qu'on appelle la stratégie d'attaque du feu naissant, ouais. Qui est une doctrine française en la matière, qui est qu'on va privilégier tout feu naissant, notamment pour les moyens aériens.
D'accord.
Parce que le feu que l'on va éteindre tout de suite, il évitera d'être le gros feu de demain que l'on aura géré pendant des jours. Et donc, on va prioriser. Et d'ailleurs, on a un travail qui se fait en collaboration avec Météo France, où tous les soirs, on étudie la carte météo du lendemain pour localiser au plus près les zones les plus à risque, des zones rouges, et établir un circuit aérien et un avion ou plusieurs avions.
Un circuit aérien de surveillance. Donc
de surveillance,
ça.
Exactement.
Ouais. On ne fait pas des largages préventifs ou on peut en
faire ? Non, ce qu'on appelle ça le guet aérien armé, c'est-à-dire un avion chargé en eau ou plutôt en retardant, qui va faire un circuit préétabli de ces zones les plus à risque et qui va, de par sa hauteur de vue, voir ces départs de feu-là, voir avec des moyens complémentaires, des caméras qui détectent automatiquement, pouvoir larguer de l'eau ou du retardant dans les premières minutes du départ de feu et éviter que ce feu ne dépasse le premier hectare.
On va retrouver Pauline Sarafi qui est du côté de Boulternère dans les Pyrénées-Orientales avec des départs de feu autour de vous, Pauline.
Oui, effectivement, des départs de feu très inquiétants, comme celui qui se trouve juste derrière moi, derrière le flanc de colline que vous apercevez à l'image de Déborah Rock. Vous venez de les rater, mais 5 canadaires ainsi qu'un hélicoptère bombardier d'eau viennent de larguer plusieurs milliers donc de litres d'eau sur cet endroit. Ce feu-là, pour tout vous dire, il n'était pas présent il y a encore une demi-heure. Il est en direction du petit village de Rodez, le petit village de Rodez qui a été évacué il y a de ça 2 heures environ. Le maire, lui, disait que déjà une vingtaine d'habitations avaient été brûlées. Il parle d'une scène cataclysmique. Vous imaginez donc l'inquiétude pour ces communes. Ce qui inquiète également, c'est ces départs de feu qu'on retrouve un peu partout, juste là, en bordure de cette départementale. Un feu qui est traité à de nombreuses reprises. On le voit, on voit plusieurs colonnes de pompiers à différents moments venir rééteindre. Mais malheureusement, à cause du vent qui s'est levé, eh bien, ces départs de feu sont de plus en plus souvent. Vous allez le voir également, ce qui inquiète, c'est le massif des Aspres, celui qui se trouve juste à ma droite, que vous allez voir sur l'image de Déborah Rock, où là, eh bien, on assiste à vraiment plusieurs fumerolles, ces panaches de fumée blanche qui parfois, eh bien, reprennent en envergure. Derrière ces reliefs, en fait, il y a énormément de flammes. Quand on prend un autre axe, on arrive à les voir, et ces panaches, eh bien, malheureusement, ils noircissent. Vous l'imaginez donc, les pompiers qui sont vraiment à pied d'œuvre sur le terrain ce lundi encore pour tenter de limiter la propagation de l'incendie. Ils sont appuyés fort heureusement par des moyens aériens, je le disais, des canadaires, des hélicoptères bombardiers d'eau. Ces pompiers au sol, ils sont toujours plusieurs centaines, 700 à l'heure actuelle, qui vont lutter encore jusqu'à la tombée de la nuit, puisqu'on le sait, eh bien, dès que la nuit sera tombée, malheureusement, ils n'auront plus le soutien de ces aéronefs que vous voyez d'ailleurs à l'image en ce moment même.
Pauline Sarafi avec Déborah Rock, puisqu'on voit les moyens aériens, parlons-en avec Nargis Hadji justement pour faire un point précisément, savoir Nargis, de quels moyens disposent les pompiers français pour intervenir sur les incendies, moyens aériens donc.
Oui, d'abord les Canadair, donc 12 en France, mais ils ne sont pas tous opérationnels. Hein. Seulement 11 parmi eux seraient opérationnels. Un Canadair, qu'est-ce que c'est ? C'est donc cet avion bombardier d'eau que vous voyez. Il est jaune et rouge. Comme son nom l'indique, il est conçu au Canada. Et sa force, eh bien, c'est qu'en frôlant l'eau d'un lac, d'une mer par exemple, il peut collecter jusqu'à 6000 litres d'eau en quelques secondes avant de repartir pour larguer, comme vous le voyez ici, son chargement. Paris a annoncé la commande de 4 Canadair supplémentaires. La livraison s'échelonnera jusqu'en 2033, ce n'est donc pas pour tout de suite. Et à terme, la flotte française comptera donc 16 Canadair. Aujourd'hui, elle n'en dispose que de 12. Et lorsque l'on compare avec les voisins européens, notamment avec l'Espagne ou encore l'Italie, on voit que le compte n'y est pas, puisqu'il y a 21 Canadair en Espagne, 18 en Italie. Il existe d'autres moyens aériens pour combattre le feu, comme le Dash. Il décolle, lui, d'une base aérienne et il peut transporter presque deux fois plus d'eau que le Canadair. De l'eau ou du retardant, c'est un liquide rouge qui ralentit la propagation des flammes. La flotte française en compte 8. Et il y a aussi des hélicoptères bombardiers d'eau équipés d'un seau suspendu, comme on le voit juste ici, ou d'une cuve. Eux interviennent surtout dans les zones difficiles d'accès, notamment pour prêter main forte aux sapeurs-pompiers, près des reliefs par exemple. Enfin, en plus, eh bien, on peut ajouter 6 avions bombardiers d'eau légers loués, notamment pour cet été.
Nargis Hadji, on a priorité au direct avec le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui vient d'arriver dans les Pyrénées-Orientales. Vous le voyez ici, il est à Lille-sur-Tête, où il vient saluer les pompiers, les forces qui sont en train de lutter contre les incendies.
La gestion des forces en présence est important aussi, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont mobilisés depuis maintenant plusieurs jours. Il faut les relever. Il faut aussi beaucoup d'hommes et de femmes pour surveiller. Même quand le feu semble éteint, il faut rester sur place un certain moment. C'est ce que Laurent Nunez est venu faire, soutenir les troupes.
Exactement, avec une coordination qui est locale, hein, la direction des opérations de secours est au préfet, et un commandant des opérations de secours, sapeurs-pompiers du service d'incendie, mais l'appui est national, voire international. Et donc on a des colonnes de renfort qui viennent de toute la France pour appuyer leurs collègues des départements concernés. Et effectivement, il y a une rotation qui doit se faire pour relever périodiquement les hommes et les véhicules et faire en sorte qu'on puisse tenir longtemps.
Il y a des renforts qui arrivent de plusieurs d'autres départements, j'imagine.
D'autres départements, on a des colonnes qui nous viennent de l'est de la France, du nord de la France, qui sont en appui. On est en train d'en préparer d'autres pour les relever et pouvoir tenir au plus long.
Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir, parce que depuis les incendies qu'on a connus ces derniers étés, si tous les moyens sont bien disposés, bien appropriés, modernisé. On a des images, là, regardez, qui viennent de nous arriver, qui sont prises par hélicoptère, qui permettent de mesurer l'ampleur des incendies, voir où sont les départs de feu. C'est vrai que les moyens aériens, les drones, aujourd'hui, c'est un moyen efficace de savoir précisément comment les feux évoluent, comment ils se propagent et quel type de végétation ils touchent, même si on imagine que les pompiers locaux connaissent parfaitement la topographie
des
lieux.
Les caméras améliorées, renforcées, dopées à l'IA. Donc c'est ces nouvelles technologies qui viennent effectivement nous appuyer significativement, notamment pour détecter les feux le plus précocement possible, pour pouvoir les éteindre quand c'est encore possible assez facilement avec un minimum de moyens.
On voit ces images, Gaël, là, de feu sur l'hélicoptère, enfin, à partir de l'hélicoptère de BFM TV. On voit aussi l'ampleur, hein, quand même, de cet incendie.
Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que on a tout le territoire national aujourd'hui qui est concerné par ces vigilances feux de forêt. Tout l'Hexagone est au moins en vigilance jaune ou orange. Donc, sur la distribution des moyens, ce qu'il faut imaginer, c'est que là où avant, au début d'une saison, on pouvait compter sur les départements et les territoires au nord pour pouvoir soutenir les départements du sud, aujourd'hui, en venant sur ce plateau, j'ai été témoin d'un feu dans les Yvelines. Il faut imaginer que les moyens...
En région parisienne.
Exactement. Donc, il faut imaginer que les moyens qu'on aurait pu engager aujourd'hui, on en a besoin partout. Tous les départements sont concernés par ça.
On peut quand même aussi s'arrêter un instant sur les origines de ces incendies.
Bien sûr.
Parfois, c'est accidentel, mais c'est aussi souvent criminel. Un homme a été arrêté dans le département de l'Hérault. Il est suspecté d'avoir allumé 9 feux. Être à l'origine de 9 départs de feu, quand même.
Bien sûr.
Là, on est face à un pyromane. Et ça crée une situation qui devient quand même
complètement
compliquée à gérer.
On n'a pas de marge. Évidemment, sur déjà les négligences, c'était déjà compliqué. Évidemment, si on rajoute les incendies d'origine criminelle, là, effectivement, on a des sujets qui peuvent être compliqués. D'où l'importance, et c'est un peu aussi le rôle du pôle nouvelle technologie de l'entente de Valabre, de ces hommes et ces soldats du feu. Je vous invite à aller voir sur ce site à Gardanne le mur des hommes et des femmes qui sont tombés au feu. Et de se rendre compte que la meilleure manière aujourd'hui de gagner ces combats et ces luttes que l'on doit mener, c'est aussi de ménager ces hommes et ces femmes et de ne pas avoir de négligence. C'est pas juste des étincelles, c'est pas juste du feu, c'est pas juste des mégots de cigarettes. Ce sont toutes les sources de chaleur aujourd'hui qui sont des dangers et qui mettent en danger ces hommes et ces femmes qui, à un moment, seront fatigués, vont forcément à un moment ou un autre faire des erreurs. On a un risque de casse sur les machines. On en a déjà pas beaucoup. Vous avez vu quand même que les moyens sont limités. Ménager ces hommes et ces femmes, c'est aussi ménager ces machines et éviter évidemment. Et ça, c'est une vigilance qui nous concerne tous, tout et chacun. Évidemment, ces drones, ces caméras qui permettent aux enquêteurs et de comprendre l'origine de ces feux pour mieux combattre leurs origines.
Anthony.
Un point d'inquiétude, notamment ce week-end, puisque l'on va avoir des températures très élevées, on sera au pic sans doute de cette canicule ce week-end, on aura toujours du vent, et surtout, ça va coïncider avec là aussi une nouvelle vague de départ en vacances. Et est-ce que vous savez combien est-ce que de mégots sont jetés sur 100 km d'autoroute, selon Vinci? 10 000 par jour, 10 000 mégots par jour, soit 100 mégots par kilomètre d'autoroute. Donc vous vous rendez compte que même si les incendies ne sont pas volontaires, parfois ils sont involontaires à cause malheureusement de ces gestes.
Regardons ensemble quand même ces images BFM TV, qui survole en hélicoptère les zones sinistrées, Ludovic Pingano. On voit quand même l'étendue de cet incendie qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser, qui n'est toujours pas fixé.
Non, il est toujours pas fixé. On voit, c'est un incendie majeur avec des moyens considérables déployés dessus. 700 personnels au sol, c'est énorme. Et pour autant, on n'arrive toujours pas à le fixer. Alors
4600 hectares partis en fumée.
4600 hectares. Oui. Donc voilà, un hectare pour nos téléspectateurs, pour se rendre compte de ce que ça représente. Un hectare, c'est un terrain de foot. Donc imaginez 4600 terrain de football en pleine Coupe du Monde, là, voilà, on doit pouvoir s'y retrouver, qui brûlent ou qui ont brûlé, juste sur cet incendie dans les Pyrénées-Orientales.
Il y a une question aussi, c'est toujours la gestion de nos forêts, ou la gestion de ce qu'on appelle le débroussaillage. Alors, bien évidemment, quand il y a de la chaleur, que toute la végétation est très sèche, vous le disiez vous-même, inévitablement, à un moment ou à un autre, ça partira. Mais comment est-ce qu'on peut s'y prendre aussi pour débroussailler, installer des pare-feux naturels? Il n'y a pas des solutions d'anticipation aussi?
On y travaille et on le fait, effectivement. Il y a ces obligations de débroussaillement. 9 maisons qui brûlent sur 10 le sont sur un terrain qui n'a pas été débroussaillé. Voilà. C'est que ça marche, c'est que ça fonctionne. Malheureusement, il en reste beaucoup et c'est ce qui expose encore de l'habitat. Et puis, on a un travail qu'on va faire hors saison. Un travail qui va se faire de manière très douce, avec le tissu local, avec des zones qui vont être débroussaillées naturellement, ne serait-ce qu'en y mettant des animaux qui peuvent opérer. Et puis on va travailler par exemple avec les sapeurs-pompiers, les sapeurs-sauveteurs, qui vont faire l'hiver des brûlages dirigés. Profiter de la saison moins exposée, avec des vents et des températures moins exposées, pour aller brûler des zones de manière préventive et enlever ce combustible qui générerait des gros feux durant l'été.
On a sur mes classes que j'ai pu faire dans le sud de la France, et Chèvre du Rove, c'est un très bon exemple de réintroduction d'agriculteurs, d'éleveurs dans les massifs pour qu'avec ces pâturages, le fait que ces animaux piétinent régulièrement, broutent aussi cette végétation, ça permet de faire ces fameuses barrières coupe-feu. Si vous voulez, on est passé de « il faut plus d'hommes dans les massifs parce qu'il fallait les préserver » à attention, on avait quand même des savoirs, on avait quand même une culture, on avait quand même une histoire dans ces
avec
massifs.
Avec le pastoralisme, notamment.
Exactement, que l'on réintroduit. Vous savez, on a donné des subventions pour enlever ces bergers dans les massifs. On est en train de, à nouveau, financer et subventionner la réintroduction de ces bergers, de ces éleveurs dans nos massifs.
On a un restaurateur qui est avec nous, il s'appelle Richard Marguel. Il est gérant du restaurant La Table de Maïlis, c'est à Isle-sur-Tête. Justement, bonsoir Richard, merci d'être avec nous. Votre restaurant, il est ouvert ou il est fermé en ce moment à cause des incendies?
On a interdiction d'ouvrir aujourd'hui.
Mais les flammes sont arrivées à 5 mètres, je crois, de votre établissement.
En fait, derrière les arbres que vous voyez, le feu était juste à côté, juste en bas, oui.
Donc vous l'avez échappé belle?
Oui, plutôt oui.
Et comment justement est-ce que vous avez pu arrêter les flammes?
Alors moi j'ai eu, enfin je pense que j'ai eu de la chance par rapport à toutes les maisons qui ont brûlé. On avait une colonne de la sécurité civile et pas mal de camions, pas mal de CCF donc engagés des centres de secours autour.
Mais il paraît que vous avez offert le repas aux pompiers, à la trentaine de pompiers mobilisés hier soir autour de votre établissement, c'est ça ?
Ben ouais, tout à fait. C'est le moins qu'on puisse faire. On aide de la façon qu'on peut, quoi.
Mais là,
on est resté avec eux jusqu'à 1h du matin, voilà.
Bon, c'est bien cette solidarité, c'est sympa, c'est un beau geste. Mais là, du coup, là, vous avez un sacré manque à gagner en plus en période estivale, là, en période de vacances.
Mais voilà, on commence les vacances. Bon, nous, pour un petit établissement dans un petit village, on estime le manque à gagner à 2000 euros par jour. Ouais.
Mais essayons de comprendre comment ça fonctionne, une évacuation. C'est-à-dire, vous avez reçu un SMS hier soir à 23h, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait.
Mais vous n'avez pas voulu quitter les lieux, pourquoi ?
Ben, parce qu'en fait, ça, c'est l'affaire de notre vie. Bon, on savait qu'il y avait ces colonnes de pompiers juste à côté et on voyait bon, que l'évolution était favorable. Hein, ils ont tout noyé. Bon, après, on reste confiné pour pas gêner les secours. Mais on s'aperçoit qu'il y a pas mal de monde qui est resté ouais, sur le village.
Mais
ouais.
Richard, parce que vous craignez le vandalisme, les vols ?
Ben, si on en croit les réseaux sociaux, oui.
Et donc, on a compris, on a entendu oui. Ben, voilà, on a un petit problème de liaison, ce qui est comparable. Merci,
oui,
Richard.
Oui, si on en croit les réseaux sociaux, tout à fait, ouais.
D'accord. Merci d'avoir été avec nous en direct. Donc on a
et bon courage.
Ouais, ces images de feu, vigilance accrue. Demain on a plus de 60 départements, Anthony, qui vont être en vigilance orange canicule, avec toujours cette sécheresse, cette chaleur qui va favoriser les feux. Quoi.
60 départements effectivement en vigilance orange canicule, plus d'une soixantaine aussi en alerte incendie, en alerte feu de forêt élevée, dont des départements qui n'ont absolument pas l'habitude, par exemple les Deux-Sèvres et l'Essonne, demain seront en vigilance rouge pour les feux de forêt.
Et des départs de feu dans les Yvelines, comme nous l'a dit, un départ de feu
donc,
dans les
Yvelines. Donc aux confins de l'Île-de-France, nous avons le même risque incendie demain que si nous habitions sur le pourtour méditerranéen avec des températures qui malheureusement sur le pourtour méditerranéen ne descendront pas.
Merci messieurs. 4 600 hectares détruits, 10 000 personnes évacuées. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui est actuellement sur place. Évolution de la situation à suivre au fil des heures avec les pompiers. On va quand même retrouver
un hélicoptère, je crois.
Oui, retrouver Victor qui est en direct avec nous pour BFM TV justement pour le survol de cette zone. Victor.
Oui, exactement. Et en fait. Ce qui est assez impressionnant, c'est que nous devons prendre en fait nos distances. Pourquoi ? Parce que les Canadairs sont toujours en train d'évoluer sur cet incendie et qui a désormais ravagé quelques 6000 hectares. 600 pompiers sont toujours mobilisés. Et vous le voyez, c'est assez impressionnant ce panache de fumée sur les images de Valentine Rip. On prend vraiment conscience de la taille de l'incendie. Nous sommes à peut-être 3 km à vol d'oiseau et nous voyons ce gros panache de fumée s'échapper derrière, devant le mont Canigou, ce mont des Pyrénées.
Victor Pérez-Bouchereau qui est dans l'hélicoptère, liaison un peu compliquée.
On a bien compris que l'hélicoptère ne pouvait pas s'approcher plus près de l'incendie parce que les Canadairs sont en train en ce moment de travailler.
Il y a toute une coordination des moyens aériens qui se fait et effectivement il n'est pas autorisé à d'autres aéronefs que ceux de la sécurité civile que de survoler la zone, ça se comprend parfaitement.
Merci messieurs.